Comment on sait tout ça? Eh bien, c'est quelque chose de difficile parce qu'il y a très peu de sources, en fait. Alors, il y a des sources en France qui sont celles qui est le courrier, les lettres, les poèmes de Sidon Apollinaire. Alors, Sidon Apollinaire, c'est un homme extrêmement intéressant parce que il est catho. Oui, il est catho. Mais il s'est élevé avec Théorique 2, ils ont été gamins ensemble, ils ont joué ensemble, ils ont toujours été très 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 liés avec Théorique 2. Et c'est le problème qui va se poser, et un double problème qui va se poser à la mort de celui-ci, et qui nous concerne, c'est que, à la fois, les catholiques prennent, avec les évêques catholiques prennent de plus en plus de puissance et de force, et en plus, il y a deux points, tu vois, les catholiques deviennent de plus en plus puissants, et ils deviennent un peu encombrants. Donc son successeur, Euric, le successeur de Théorie, Euric va chercher un petit peu à les contrer. Donc ils vont envahir l'Auvergne. Mais pas tant que ça finalement, parce qu'ils vont envahir l'Auvergne, mais avec l'accord des Romains. Les Romains leur demandent aussi... Alors oui, c'est un peu délicat. Ils ont envahi l'Auvergne, mais avec l'accord des Romains, de Rome. Mais c'est une guerre surtout avec les évêques catholiques. Alors, Martin de Tours est une source importante, ce qu'on appelle Saint-Martin de Tours maintenant. Mais lui, il est un petit peu plus... D'abord, il écrit beaucoup plus tard, et il est un peu plus contestataire. Troisième source, c'est Ricius de Limoges. Rue Ricius, de Limoges, merci de me reprendre. Qui n'a pas beaucoup de traces en France. Mais on a beaucoup de traces en Angleterre. Parce que les Anglais sont arrivés assez tôt pour sauvegarder quelques trucs. Donc si vous voulez des infos, des lettres sur les Go, il vaut mieux aller en Angleterre. Alors, tout simplement parce que c'est là que les Anglais ont récupéré une partie des écrits, au moins des lettres, des poèmes qui ont pu être faits sur le royaume visigothique de Toulouse. Alors, ensuite, je vous ai remis un petit peu... Donc, Alaric Ier, mort en 411, Théorique, Torismond, Théorique II, Alaric II, qui va disparaître, et leurs enfants, qui on peut... soit ils ont épousé, alors on va le voir tout de suite, et c'est qu'ils vont épouser rapidement des Francs, des femmes, des princesses Francs, ou des femmes... des femmes gauches qui vont épouser des Francs. Un nom à repérer, c'est Pédoc. Pédauque. Alors, on l'appelle déjà comme ça. Alors, bon, il y a tout un débat là-dessus, mais certainement, la reine Pédauque, c'est en référence, notamment, aux oies sacrées, et c'est en référence aussi à ce qui sera la patte d'oie des... on le dit ? Des cagots.
Et là, il y a...
Les cagots. Vous dites pas encore au cajot, j'ai entendu cajot, je suis bon, du cajot. Enfin, des canis go. Mais alors là, je veux dire que c'est pas évident ça. Là, par contre, on rentre dans un domaine dans lequel c'est encore plus claustré parce que. Voilà. Alors là, vous avez ce genre de travaux, de bijoux qui ont été faits par eux. Alors là encore, on a vu ça, le sceau d'Alaric II, etc., qu'on a retrouvé. Alors ensuite, dans la construction des États, il va se mettre avec le code d'Alaric en place le bréviaire d'Alaric, et a été en vigueur jusqu'à Napoléon pour nous. Et encore, ses successeurs espagnols l'ont prolongé, et il est encore en usage, le code, ce qui a inspiré au moins le bréviaire d'Alaric, c'est encore en usage en Espagne. Voilà. Donc on a affaire à des gens parfaitement qui créent un peuple et qui sont parfaitement romanisés. quelques mots là-dessus, peut-être. Le voyage d'Alaric, il existe, on peut le voir. C'est quelque chose, parce qu'il a été dupliqué en beaucoup d'exemplaires, enfin beaucoup, quelques exemplaires. Donc le roi Wisigoth, en 475, Rome confie aux Wisigoths, en fait, le royaume wisigothique complètement, avec tous les pouvoirs. Oui, voilà, il sera repris et terminé en 798 avec le frérot je ne veux pas dire de. Alors de là, bon, on a tracé un peu cet élément. Je reviens un petit peu sur mon village de naissance, qui est quand même important. Voilà. Les points essentiels nous amènent à Topinui. En patois, vous prononcez les V et les V pareils. Eh bien, en go, c'était les gueux, les bœufs et le bœuf. Hein, c'était ces trois. Et en patois, en espagnol aussi, on le fait. En espagnol, les V et les P se prononcent pareil. Et si vous amusez à présenter, à voir, par exemple, tous ces noms, pour nous, c'est très près. Hein.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Go, got, gotri, gotier, gopier, gourc, gourdon. Vous voyez, on arrive. Tous ces mots s'enchaînent assez bien l'un dans l'autre. Donc, on peut imaginer, puisqu'on est là, on peut imaginer que Borèse est né pas très tôt dans le royaume Go. Il se situe, on pense qu'il se situe dans les 450. Borèse, c'est une vallée particulière. Alors ce qu'on a autour de Borèse est intéressant, parce que il y a des églises ariennes, mais il n'y a pas de Gaux. Pour les Salignac, Caïvig, ce sont des Gaulois qui sont là, hein, tout le tour, sur tous les oppidums, Rayrevigne, vous avez, enfin vous connaissez ces villages que je cite, mais, d'où tout ça, c'est des villages, il y a des Gaulois là, on est Gaulois. Mais ils cherchent des endroits. Il n'y a pas trop de monde, certainement, et ils vont s'installer à Borèse. Et quand on est à Borèse, on est toujours surpris, quand on a mis la bac, par le fait que on parle toujours du pont de l'île. À Borèse, il y a le pont de l'île, pour ceux qui connaissent. Il y a un pont de l'île, il n'y a pas d'île à Borèse, mais il y a le pont de l'île. En fait, la zone marécageuse était autour de l'église actuelle, si vous connaissez le village. C'est une zone marécageuse, et puis bon, ils sont allés s'installer là. Alors, ça veut dire, dans une traduction, ça veut dire bord, c'est-à-dire maison, ça aussi, ça a été importante quand René Gousseau, ça a été une chose importante parce que elle m'a mis sur cette piste-là. Et effectivement, ça correspond vite. Et Borès, ça veut dire la maison. C'est une grande maison un peu forte dans laquelle le chef est installé. Alors, le temple, l'église de Borèse a été reconvertie. Normalement, un acrobate est dans ce sens, vous voyez. Quand on met un acrobate dans les chevets d'une église, il est toujours dans ce sens, avec l'encorbellement au-dessus. À Borèse, il est à l'envers. Donc, on voit bien. Qu'on a réutilisé des éléments de l'église ancienne un peu n'importe comment. Mais le pire, si vous voulez, c'est quand même cet espace. Vous voyez, ici, au milieu du clocher, qui est un vraiment beau clocher 16e, 17e, pour ce jour-là, hein, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Des pierres bizarres, un ours, une panthère, des choses au milieu du clocher, là. On voit des rares points. Vous voyez, c'est en ce sens où on voit bien, et pas quoi, n'importe quoi, il y a des ours, il y a au moins 4 ours à Borèse qui sont remarqués. Alors des ours, on en verra beaucoup, hein, c'est sûr. Alors si on reprend Borèse, je vous l'avais dit, Borèse, Barèse, etc. Alors, je suis un peu gêné parce que j'ai rajouté ça à ce que j'avais écrit, parce que des Borèse, ils ne sont pas tous dans des fonds marécageux. Vous en connaissez des Borès? Celui-là, c'est celui qui a créé Saint-Sac, après créé Saint-Sac, vous le connaissez? Et il n'est pas dans un fond marécageux, celui-là. Donc ça pose des questions. Mais on va voir tout à l'heure, on va y revenir. Alors le goth, c'est pas loin d'ici, vous connaissez? Des goths comme ça, il y en a, j'en connais trois en Dordogne, je connais celui-là, hein. Si vous en connaissez d'autres, je suis preneur. Hein.
À côté, là. Le moulin du
Cours. À Creil, c'est celui de Creil, oui, c'est celui de Creil. Alors, Goud, Goudou, Germain, Allemand, Gourdon, alors Gourdon, ça veut dire trou d'eau poissonneuse. Trou d'eau poissonneuse. Gourdon, vous savez quoi. Gond, c'est le Théotod, c'est peuple. Alors l'écriture, c'est l'écriture latine, donc. Les sons ne sont pas toujours reproduits, vous savez, ça pose...
Le blagour, c'est le bourg bleu.
Pardon ?
Le blagour, c'est le bourg bleu.
C'est le bourg ?
C'est le bourg bleu.
Oui, écoute bien. Oui, bourg. Ah oui, merci, tiens, voilà une information. Je n'avais pas pu trouver encore, pourtant je connais le blagour.
Parce que ça doit être assez... Je pense que c'est...
Parle plus fort.
Je pense que c'est Caroline qui
Ah non, Gours, c'est Siagours.
Non, le lieu.
Ah, le lieu, l'équipement du lieu, peut-être, oui. Oui, vous m'apportez quelque chose. Pourtant, je connais bien le blagour aussi, mais je n'ai pas fait la maison. Parce que le blague, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Le gour, oui. Le gour, on se retrouve dans ces toponymies-là.
C'est marécageux.
Oh, oui, c'est marécageux. Vous voyez, Goth, on a vu tout à l'heure, Goth, Gotterie. Oui, je me souviens, il y a bien longtemps. Je faisais des centres de Dordogne à ce moment-là et j'avais fait un petit site sur Borès et j'avais trouvé la toponymie, j'avais trouvé Boréza, du nom du cours d'eau, Bor et suffixe es, itia, peut être le domaine de Borésus, le propriétaire romain. Et vous voyez, bon, c'est ce qui se disait. Après, on a vu d'autres éléments. Il a été dit également que c'était peut-être préceptique. Et moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est autre chose. Gouffier, on a vu. Il y avait toute la bande des Gouffier, Gautier, etc. Tous ces noms-là qui sont des déviances du nom Go. Ce qui n'est pas sans. Ça veut dire aussi que ces gens-là.
Un Gautier au-dessus de.
Gautier, oui.
Gautier, là,
oui, Gautier, c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver tous ces noms. Et on voit qu'il y a quand on écoute tout ça, on se dit, il y a du go dans l'air par ici. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, mais il y a quand même des traces importantes au niveau de la toponymie. Alors ensuite, parmi les éléments qu'on va pouvoir retrouver ici, voilà, donc il y a aussi les chrismes. Donc, l'arianisme, c'est matérialisé par les chrismes. Alors on a dit, oui, mais on en a vu chez les catholiques, pardon. Oui, il y en a chez les catholiques, mais on en voit réapparaître à partir autour du 16e, quand tout a été oublié. Hein. On verra quelques-uns. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le chrisme, il y a le P et. Et Christ qui va de l'alpha à l'oméga, hein, c'est du début à la fin, quoi, en fait.
C'est un qui et un rho, c'est pas un X et un P, c'est un qui et un rho.
Vous avez raison, monsieur. Ah. Non, mais,
alpha,
oméga. L'alpha et l'oméga, c'était. Vous avez tout à fait raison.
C'est le début et la fin.
Le début et la fin. Alors, l'avantage alors, ces éléments-là, on les voit surtout sur les églises. Hein. Alors, l'avantage, ce gros avantage des églises, c'est qu'elles ont été souvent détruites, mais les pierres n'ont pas toujours été disséminées, et la plupart du temps, disons 98%, les pierres sont réutilisées, soit dans les murs, et on ne voit pas les sculptures qu'il peut y avoir, comme à Périgueux, par exemple, le rempart de Périgueux, il est fait en grosse pierre, si on regarde dedans, il y a plein de sculptures à l'intérieur. Vous voyez la protection qui a été faite au Moyen-Âge. Et donc les pierres sont souvent réutilisées, on voit des traces. Hein? Alors oui, deux mots sur le chrisme. Le chrisme était surtout présent, vient d'Orient. Il était surtout présent en Orient, je parle sous beaucoup de contrôle. Hein. Et surtout, il était le symbole de le symbole du christianisme oriental qui était sur les étendards du Constantin. Et alors ce chrisme, on va en voir un certain nombre qui sont très proches de nous. Moissac, là c'est un réemploi dans l'église de Saint-Vincent-du-Cos. Ici c'est sur un cercueil en pierre. Excusez-moi, j'ai des trucs. Un sarcophage, merci. C'est sur un sarcophage, on va les retrouver ces signes, donc assez fréquemment dans la région. C'était ce qui marque leur passage. Alors, on les trouve, même à Moissac, on trouve ça sur un sarcophage qui est réputé très catholique. Hein. Mais ça se confond, les saints, ce genre de choses. Alors ça aussi, c'est un des éléments, je pense que vous le connaissez. Et celui-là, l'autre, je pensais que vous parliez de l'autre. L'autre, bon, si vous traînez par là, sur Baladou, Rignac, tout ça, vous avez des représentations ursines partout, hein. Dans toute cette région du Martel, vous avez des représentations. Alors celles-là, elles ont posé beaucoup de questions. Elles m'ont posé beaucoup de questions. Et c'est en relisant des trucs sur cette époque-là, notamment le fait que les catholiques ont demandé à réoccuper les églises sans détruire les idoles ou enlevant les idoles. Et je pense que ça en fait partie. Parce que là, on a un bel ours qui est resté dans une cave pendant un millénaire, et avec son livre. Vous voyez, ça c'est plus récent, effectivement.
C'est ce qu'on retrouve sur un portail.
Voilà. Le paysan ne devait pas avoir assez d'argent pour mettre un lion comme tout le monde. Il a mis ce qu'il avait dans la cave. Ça semble assez probant. Hein. Ils sont même magnifiques. Alors vous avez un ours, et vous avez une espèce de panthère, des noms de ce type-là.
Je pensais que c'était justement le caveau, le canis.
Non, c'est pas un canis. Ce n'est pas un canis, puisqu'il porte le livre.
Vous n'avez pas vu tout.
Et il a les yeux, les oreilles, ouais. Bien rondes, regardez. Vous voyez, ouais. plutôt, il a les oreilles plus rondes qu'un canis.
Le canis, ouais, on en trouve un sur une petite chapelle du côté de Gramat.
Pardon,
plus fort. On en trouve un sur une toute petite chapelle du côté de Gramat.
Oui.
Sur l'embranchement qui va vers
le Vigogard. Monsieur a dit qu'on en trouve un que je ne connais pas sur le Gramat, hein, sur la petite chapelle qui est en arrivant sur le Gramat.
Ben, je ne sais plus exactement, je l'ai vu plusieurs fois en me promenant en vélo, hein, c'est appris là.
Ouais. Alors,
une toute petite chapelle, au moins,
je n'ai pas entendu l'endroit exact, mais il y en a une.
Ça me revient pas.
Bon, on reprend cette discussion après. Alors, l'ours, je vous avais mis ça. Donc, l'ours joue toujours ce rôle. Alors, la tradition, la légende veut qu'un jour, le dieu effrayé par les hommes, les transformer en ours. Entre autres, il y a beaucoup de légendes qui ont trait à l'ours. Alors, les vertus minicidales, sa graisse, mais surtout sa toison qui permettait d'aller au combat et d'être fort. Ça, c'est une constante depuis le Nord. L'ours, les jeunes guerriers devaient tuer leur ours et se revêtir de sa peau avant de partir au combat pour avoir la force de l'ours. Et c'est une force tranquille. C'est donc, il a fallu substituer à l'ours, qui était l'emblème des Gaules, un autre emblème qui est le lion, qui est l'emblème des rois. Donc, alors vous allez me dire, mais oui, mais notre bon pape Benoît XVI avait des ours dans son blason. Oui, c'est vrai, il avait des ours dans son blason. Mais Saint-François aussi avait un ours dans son blason. Mais c'est les ours qu'ils avaient matés. Ils avaient domptés. Donc, alors, l'ours, à ce moment-là, les chrétiens de toute l'Europe, à partir du Xe siècle, vont éradiquer à tout prix les ours.
Aussi avec
Pardon
Gaston Phébus.
Oui, dans la chasse, oui. Juste, je crois que l'église, d'ailleurs, j'ai entendu Fébus, j'avais cité Gaston Fébus. Alors, ce que je voulais vous dire également sur l'ours, c'est que il y a des légendes qui courent. Bon, il y a les fêtes de l'ours, ça vous avez entendu parler, ça existe encore, c'est très touristique, on peut encore vous dire, hein, mais ça existe. Alors, il y a la fête de l'ours dans beaucoup de petits villages, disons du sud du Massif central. Il y a des légendes aussi, un ours solitaire qui rôdait, parce que la légende la plus fréquente, c'est que l'ours enlève les jeunes femmes menstruées. Oui. Parce que les femmes menstruées aimaient bien les femmes menstruées aimaient bien les ours, parce qu'ils sont grands, ils sont chauds, et puis les amener pour 6 mois dans leur grotte. Et oui. Alors de là est née des légendes sur ces ours. Je vous invite à lire, si vous avez envie, l'ouvrage de Michel Pastoureau, L'ours, ce roi déchu, qui est, dans lequel il nous parle notamment de pas mal de ces légendes. Alors, quand on arrivait à l'attraper, on le rasait et puis on le conduit sur la place du village. Je pense avec la légende de Jean de l'ours aussi, qui est né des relations adultérines, je vais dire, entre l'ours et la dame. Et puis, en plus, il y a un autre défaut, l'ours, c'est qu'il fait l'amour comme les hommes par devant et pareil, la légende dit. Hein. Donc il fallait quand même, c'était un sacré concurrent à nous les hommes. Hein. C'était un sacré concurrent, donc il fallait, en plus, il était grand, costaud, chaud. Et 6 mois, hein. Pendant 6 mois. Hein. Voilà, donc c'est. Néanmoins, au XIXe siècle, la réalité a dépassé la légende. Dans l'Ariège, le siècle dernier, c'est une dame qui est. Ils ont avec dessus une personne qui a été. Qui vivait qui est nue dans les bois. Et elle disait. Ça a été déposé hein, à la gendarmerie. Ils étaient mes amis, ils me réchauffaient. C'est tout ce qu'elle a dit, en fait. Elle n'a pas dit grand-chose, sauf que ça. C'était ses amis. Elle est morte très vite. En capture, c'était pas terrible. Alors, il existe le carnaval de l'ours, puisqu'on est à Martel, à Andenne, en Belgique, où Charles Martel obtient son surnom. Alors là, j'attends vos versions. Charles Martel devient Martel, tout simplement parce que jeune, il a réussi à tuer, à 9 ans, il a tué un ours d'un coup de marteau.
Après
sa mort. J'ai pas entendu, pardon.
Le surnom lui a été donné après sa mort.
Oui, peut-être. Mais il a tué quand même son ours, comme tout le monde. On va voir tout le monde, tous les ours. C'était bien. Alors, ce qu'il faudrait rajouter par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est que ces traditions, ces fêtes, ça revêt quand même un caractère, j'allais dire, presque politique. Que si on affronte, si les bergers, s'il y a des personnes qui sont aussi hostiles à l'ours dans les Pyrénées, c'est qu'il y a peut-être des raisons qui dépassent la pure écologie. Et je pense qu'on est dans un affrontement entre catholiques et autres religions. Ça va plus loin qu'un simple affrontement entre bergers et quelques moutons qui auraient été croqués par des chiens ou souvent, parce que les indemnités sont souvent plus confortables que le prix du mouton. Enfin bon, je vais aller un peu loin, mais bon. Qu'est-ce que je vais dire? Le dentage des ours aussi. Le dentage des ours. Alors, qui c'est qui présente les ours? C'est les Pyrénéens, les Ardigeois, les Tziganes. Tous les gens qui sont marginaux, en fait, présentent des ours. Et l'ours va être le seul animal accepté par l'Église qui pourra être présenté de cette manière-là. Après l'effondrement de l'Empire romain, les jeux de cirque, ça n'existe plus. Le seul animal pour lequel on accepte qu'il soit de cette manière-là, c'est l'ours. L'ours, on va le montrer muselé. Et ça va permettre ces vendeurs qui font à côté, vendeurs de boutons, de mouchoirs, d'almanachs, fabricants de paniers, sabots, tout ce qu'on aura. Ils ne font pas que ça, les monteurs. Donc, ce sont des gens qui ont immigré. Et souvent, ça va être autre chose.
C'est des colporteurs.
Des colporteurs, et qui reviennent de ça. Avec Jérusalem, et n'est-ce pas Jojo? Jojo, vous le connaissiez, Jojo l'ours? Qui le connaissait parmi vous? Vous n'avez pas été présenté? Ah mais moi, je le connais. Je le connais parce que dans les années 70, je me trouvais à, comme peut-être certains d'entre vous, être moniteur de colo. Et dans cette année-là, j'ai vu à Borse, à l'école des pupilles de la Nation, qui était dirigée par M. Rose, oui, c'est ça, et M. Rose, et les enfants étaient revenus de balade avec un petit ourson. Donc, Amel, vous connaissez un peu la Védasque, Amel, il y avait une ours qui avait été tuée, et le petit ourson avait été ramené par les gamins. Bon, le temps passe, j'ai dit, petit ourson, je vais faire autre chose. Et puis, dans les années 80, quand je suis rentré d'Algérie, je suis revenu pour des raisons, je travaillais au conseil régional, pour le conseil régional à Bordeaux, et je suis revenu là. Il y avait encore M. Ross qui était directeur de cette institution, et Jojo était toujours là. Jojo était toujours là, mais il ne s'agissait pas d'un ourson, il était comme ça, à peu près à hauteur de belle bête, de 1m50, 2m50, oui, on va dire. Il était grand et costaud, mais toujours sympathique. Un brave Jojo, c'est pour ça qu'il était. Alors, mais seulement, je ne laissais pas jouer avec les enfants, parce qu'il avait des griffes de centimètres. Voilà. Et Jojo, ce qu'il y a de fantastique, c'est que on avait un ours des Pyrénées, d'origine, en bonne santé. On n'a pas eu un prélèvement de sang, pas un prélèvement de sperme, rien, alors qu'il était apprivoisé. Et après, on est allé réintroduire des ours du Mont Cantabrique. D'ailleurs, j'ai rien contre. Simplement, bon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. On avait cet ours qui était complètement apprivoisé, qui est mort dans les années 95, peut-être. Alors, des ours, on en a aussi partout chez nous. Dans tous nos chevets. Regardez-les maintenant, vous, les chevets de vos églises. Regardez, vous allez en voir partout des petits ours comme des grands, des petits, des anciens, des nouveaux, des bébés, qui tirent la langue, d'autres qui se croisent les jambes. Il y en a partout des ours. Vous voyez, on les reconnaît, ils ont les oreilles comme ça, quelquefois un peu plus pointues, des fois un peu plus rondes, mais c'est toujours des ours. Il y en a partout. Alors, quelquefois, vous allez me dire, c'est pas toujours vrai. Il y a eu des ours qui ont été créés dans des églises plus récentes, du 12e. Et c'est vrai aussi. Mais souvent, ils vont être muselés. Je vais faire vous un. Je l'ai mis. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis, je ne crois pas. Je ne l'ai pas mis. Excusez-moi. J'ai pas. Il y a l'ours. Le colonge la rouge. Vous en avez un qui est batté. Avec un. Comment on appelle pas batté. Il y en a. Vous en avez un qui est avec un homme brave, vous avez un bâton entre les.
Tabastel.
Oui, à Collonges, il est très bien. Jusqu'à vous rentrez dans le porche, quand vous passez les portails de l'église, là vous regardez, vous l'avez à droite, il est vraiment très bien. Et ça, c'est l'ours qui arrive après, ça va être l'ours denté. Alors là, bon, ça fait partie de. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque saint que nous avons adressé un ours. On peut vous parler du pape, l'ancien pape, vous parler, et on va voir tout à l'heure, on va reparler avec les cinq miracles de Saint-Front, par exemple. Tous les saints locaux ont dressé un ours. Ils l'ont mangé, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Alors là, les religions sont nombreuses. Hein. On va trouver ça à côté de Souillac, à Camillac. Ça, c'est. Alors ceci, on va en reparler tout à l'heure, parce que c'est un oran. C'est un oran qui est à Eden. Ici, messieurs, c'est Priap. Là, vous avez sous différentes portes, mais là, cette personne Alors, il y a des dames, on ne va pas le dire, mais très fouillues, quoi. Bon, voilà, donc, c'est un petit...
Hein?
Oui, il est petit, il est mal foutu, et il a des gros machins. Voilà. Donc, tout ceci, toutes ces religions qui vont coexister dans l'espace visigothique, assez fréquemment. Mais il y a donc les religions un peu anciennes, mais il y a aussi celle-ci, par exemple. Ça, c'est à Mombos. Alors, Mombos, ça a tout sauf d'une église. Hein. Si, il y a un hôtel au milieu. L'hôtel, ça peut servir, effectivement, à dire la messe. Mais à côté de ça, vous êtes entouré par des scènes de chasse. Vous avez des scènes hyper sexuées, là, qui servent. Bon, je ne vais pas faire un dessin. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas rien, quoi. Quand on est dans une église, elle est quand même un peu surprenante. Hein. C'est plutôt des cultes de fécondité, c'est plutôt des choses comme ça qui se développaient là. Pardon ? Oui, mon boss, c'est très particulier. Hein. Alors là, à Cimeirol, vous avez des représentations de masques surprenantes. C'est plutôt... ici, vous êtes à Rignac. Hein. Les sirènes bifides, elles sont à Rignac. Alors celle-là est peut-être plus récente, mais celle-là, elle est plus grotesque, si vous voulez. Celle d'en bas est beaucoup plus fine. Alors là, je ne sais plus où c'est Rignac aussi, ça, je crois. Hein. Qu'est-ce que c'est la lune dans ce sens-là? D'habitude, c'est Tanit, c'est le dieu Tanit. Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est le dieu des Carthagines. Mais on a aussi, parmi les autres cultes, et pas loin d'ici. Tauriac, c'est pas loin. On a des représentations de ce type-là. La Réruigne. Là-bas, c'est Cahors. Là, c'est Saint-Michel de Bagnères. Vous avez, c'est normalement, donc ils représentent donc des cultes ultraïstes. Le veau d'or, enfin, je ne sais pas d'où ça vient exactement. Hein, mais peut-être certains d'entre vous pourraient m'instruire là-dessus. Mais manifestement, il y a eu des cultes autour de ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Je n'irai pas plus loin. On peut relever que c'est des taureaux. Et que le culte de Thor s'est reconverti en culte catholique de Saint-Cernin, ça ne sert à rien, quand on connaît ses cultes. Oui, oui. Voilà, très bien. Saint-Saturnin a dévalé, est mort en ayant dévalé sur un taureau en furie des escaliers. Et on voit qu'on va. Sanctifier, merci. On va sanctifier beaucoup de personnages. Un peu souvent mythiques, qui vont devenir saints, les saints catholiques que nous connaissons. Bon, les oiseaux, ça va être un peu la même chose. On va les voir et on va retrouver beaucoup. Souvent, vous allez trouver des oiseaux qui boivent dans le même ciboire. Ça, c'est encore un élément qu'on trouve venant de cette période. L'oiseau étant l'ami de l'homme, l'oiseau étant amour, etc. On n'a pas besoin d'aller loin. Hein. Sauf là-bas, je suis allé à Cordoue, vous voyez, vérifier, mais c'est le Cordoue le jaune. Hein. Les autres, c'est tous là, Cadouin, Gruges. Là, je crois que c'est sur Carénac. Les oiseaux, il y en a même à Souillac. Les oiseaux, sauf celui-là. Alors celui-là, si quelqu'un peut me dire, c'est d'après ce que j'ai pu voir, c'est un culte. Plutôt du Moyen-Orient, qui représente un coq avec deux serpents. Deux serpents, hein, deux, et une espèce de coq. Alors ça, c'est pas loin, c'est un Ray-Revigne. Hein. On voit bien qu'il y a eu des réemplois, vous voyez, que les religions se sont succédées, avec plus ou moins bien... Alors, on ne sait pas tout, hein, moi je ne sais pas tout. Hein. Si vous pouvez me dire quel est ce culte, je ne demande pas mieux. Mais manifestement, il y a eu un culte autour de ça. Alors, au point de vue architecture, peut-être que je suis un peu long, hein, vous devez vous en aller. Oui, je vais accélérer un peu. L'architecture, mais c'est pareil. Donc, je suis allé visiter à Tolède pour voir si c'était pareil. Parce que là-bas, il y a un avantage chez les Espagnols, ils sont restés plus longtemps. Et il y a des études archéologiques qui se font depuis longtemps, qui sont faites par des historiens parfaitement compétent. Et alors, on va voir Tolède et puis on va aux Arcs. Vous savez, les Arcs, c'est pas loin, les Arcs. Et vous avez vu cette église, vous y êtes allé? Essayez d'y aller une fois au moins, vous allez voir. Moi, je pensais, il y a quelques temps, je pensais que c'était une église arabe. Je ne vous le cache pas, je pensais que c'était arabe. Non, c'est pas arabe, parce que à Tolède, on m'a appris que c'était pas les Arabes qui avaient fait ces arcs outrepassés, que c'était les Visigoths qui avaient appris aux Arabes à le faire. Ah ben, je ne savais pas. Voilà. Alors, moi, je reprends ce que disait Grégoire le Grand en 601, n'est-ce pas? C'est ce qui aide à faire comprendre pourquoi on retrouve des statues, on trouve des trucs qui ont été perdus ça et là, qui ont été réutilisés dans un sens ou dans un autre. Il ne faut pas détruire les temples, s'ils sont bien construits, on les garde. Ensuite, dans les appareils, la manière de construire les murs. Vous voyez, vous avez, ça c'est chez toi, hein, la chapelle aux Arcs, tu vois, tu as des bandes qui se succèdent, c'est un type de construction, on va le retrouver à Mérignac-le-Francal, on le retrouve à Réfugny, on le trouve un peu dans plusieurs églises qui sont construites comme ceci. Alors on pourra dire qu'il y a des imitations. Oui, il y a certainement d'autres personnes qui ont construit comme ça aussi. Hein. Je veux dire que c'était un style de construction qui faisait en sorte qu'il y avait de juxtaposition de pierres plates et de pierres plus épaisses. Ah, là aussi, c'est encore... là, c'est un mur dans un village à côté de Sarlat-Marcaille, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis alors, voilà. Il y a plus que ça à Marcaille. Il y en a d'autres, mais c'est dans une propriété privée et en sous-sol. Donc on retrouve après ces chapiteaux. On en trouve ici, et celui-là est espagnol. Oui, mais Palmette. Corinthien, Palmette. Voilà, donc c'est. Chapitre de Palmette, donc on en trouve ici, ou si vous en voyez, ce serait l'époque visigothe. Alors d'autres diront corologien. Et en fait, une signature importante qui est à Ibène, c'est cet orang dans un mur. C'est un homme en prière, mais cet orang, un orang de ce type-là serait une signature visigothe. Voilà. Qui montre que les visigoths, ils sont entraînés du côté de l'oral. Et d'ailleurs. Ensuite, ça c'est plus au sud, vers sur la route de Funès, vers l'Olpe. Donc là, vous retrouvez avec des sculptures, des décors de ce type-là. Donc on a affaire à une culture qui est quand même assez vivante et assez présente chez nous, et qui nous permet de voir un peu d'essayer de les repérer maintenant. Alors, le schisme religieux entre Rome et Constantinople fait en sorte que les Ostrogoths remontent, sont envoyés par l'Empire d'Orient, et ce qui fait que l'ensemble de l'Occident est en train de passer à l'arianisme. Et c'est la raison pour laquelle l'Église romaine, je vous passe à... Ah, les Bretons, non, ils n'ont pas été colonisés beaucoup, mais ils ont été colonisés, mais par les Celtes. C'est
on sait aussi.
Hein,
des exemples.
Hein, pardon. Voilà, donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est que, on va voir, Clovis en 707 tue Alaric II, de manière un peu bizarre d'ailleurs, à Vouillet, à côté de Poitiers. L'oligarchie visigothe part très vite en Espagne, il y aura encore un moment dans un instant, et il va rester sur place, et bien les Goths qui n'ont pas pu partir parce qu'ils n'étaient pas assez riches, parce que un certain nombre de il y a eu des petits chefs aussi qui sont restés ici. Voilà donc c'est le moment où avec Clovis, que la France devient la fille aînée de l'Église. Ça vient de là, une collusion très forte, il va y avoir entre les catholiques et le Clovis, enfin les Francs. Alors, un certain nombre de petits rois locaux, ce seigneurs, on va dire, se sont alliés avec, se sont christianisés d'abord, catholicisés, pardon, se sont fait baptisés, et catholiques, et ils se sont mariés avec des femmes franques ou lemersains. Donc on va avoir une fusion un petit peu des élites, on va dire. Alors l'Église joue un rôle un petit peu entre les pouvoirs des uns et des autres. Et les cajots, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est là qu'on va atteindre les cajots, on va en parler à l'instant. Mais avant, peut-être, juste parler un petit peu de Saint-Front, qui est l'évêque, pas le premier, loin de là, hein, comme on le dit, parce qu'il y a eu beaucoup d'évêques ariens, Procope, etc., qui ont été évêques de Périgueux avant. Alors pourquoi je suis particulièrement intéressé à lui? Ce qui m'a valu quelques petites tensions avec le monde religieux de Périgueux, parce que ça vient d'un chapiteau d'une église qui s'appelle l'église Saint-Front. L'église Saint-Front, c'est l'église qui surplombe la Dordogne à la Lède. Est-ce que vous connaissez le Coulombre? Est-ce que vous connaissez le Coulombre ici? Voilà, le monstre fluvial, oui. Alors, la vallée Saint-Front et l'église Saint-Front a été édifiée en vue de commémorer le fait que le Coulombre, le monstre de la Dordogne qui dévorait les vierges à l'Inde et les autres ateliers, soit tué par Saint-Front. Hein? Alors, le problème, c'est les siècles. Parce qu'on a Saint-Front, vous le voyez représenté avec le demi-bâton de Saint-Pierre. Saint-Pierre lui a donné un demi-bâton à lui. D'accord? Et là, il a sa crosse d'évêque. Jusque-là, tout va bien. Mais là, ça s'appelle une peau d'ours. Ça va moins bien, là, déjà. Et puis, en plus, il a les pieds, vous voyez, un peu bizarres. On pourrait dire, sa coupe de cheveux, c'est celle du blason de Alaric. La coupe de cheveux, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Une coupe de cheveux comme ça, c'est, il l'a. Ce qui veut dire que, qui est Saint-Front, ben, pour moi, c'est un transfuge. C'est un transfuge de Visigoths ariens. C'est un évêque arien qui est allé chercher, qui a été chercher la consécration à Rome, tout simplement. Alors déjà, on a l'essence. Saint-Front, il a maté un ours. Il est parti avec à Rome, parmi les cinq miracles, il est parti à Rome avec sa mule ou son âne, je ne sais plus. Un ours l'a attaqué, il a dompté l'ours, il est arrivé à Rome avec un ours batté. Il a dominé l'ours. À chaque fois, à chaque saint. Alors parmi les cinq miracles de Saint-Front, il y a celui avec Sainte-Marc. Alors Saint-Georges, Saint-Georges était mort, il a ressuscité, et c'est devenu un grand copain. Saint-Georges, vous savez, le tueur de dragons à cheval, il représentait. D'ailleurs, il est là, je crois que je l'ai vu. C'est la première représentation de Saint-Georges à Tarnac. C'est à Tarnac, c'est en Corrèze, là. Voilà. Il m'a tabours. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme miracle? Ah oui, il a détruit la statue de Vésuna, la déesse. La Vénus des Gaulois des Pétrocor. En plus, les Pétrocor sont les amis des Carsinois, c'est bien connu. Puisque les Cardurques et les Pétrocor étaient pas loin d'ici, hein, à plus dissolus. Parmi ces miracles, il y a eu la Sainte-Marthe. Il était à la fois à Périgueux et à Tarascon, à la mort de Sainte-Marthe. Il a oublié un gant vert là-bas, c'est-à-dire qu'il était à la fois dans les deux, téléporté. Et oui, il a fait plein de trucs comme ça, Saint-Front. Non, c'est... Donc, ceci pour vous dire que il y a une colonie. Voilà. Il guérit les malades à Vic. Ah oui, il a fait aussi, au 9e siècle, vous voyez, il est allé toucher le demi-bâton de Saint-Pierre, mais au 9e siècle, il a les jambes. Il est allé avec ses copains catholiques, il est allé à Bordeaux, il a détruit le temple de Prias. Parce que les Bordelais l'avaient jeté, ne voulaient pas de sa religion. Neuvième, vous voyez, on ne sait pas trop. Par contre, le temple de fer, qu'on a retrouvé. Il existe à Bordeaux, vous pouvez le visiter, il a été découvert il n'y a pas très longtemps. Et voilà, un peu sur... Mais alors, j'ai oublié juste sur la destruction de la déesse des Unas, il est sorti un dragon. Un dragon qui est allé se réfugier sûrement dans la Dordogne. C'est pour ça qu'on a des ennuis avec. À côté, vous avez. Et vous avez souvent aussi sur les églises apposé des croix de consécration. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où les églises passaient d'une religion à l'autre, il y a eu ce cycle qui a été une croix de consécration. Vous en avez en peinture. Je crois qu'à Martel, il y en a, et en peinture. Il y en a qui sont également en pierre, taillés dans la pierre. Ensuite, ça, c'est ces querelles religieuses, catholiques, visigoths dans l'ex-empire, vont occasionner des persécutions très graves. Et c'est là qu'on rentre dans le vif de notre sujet. Dans notre sujet, on est déjà rentré. Mais, vous voyez, c'est-à-dire que quelque part, alors que tous les autres chefs, l'oligarchie visigothe a été recyclée, soit en Espagne, soit en France, d'une manière ou d'une autre, il y a tous les gens qui vont rester sur place et qui seront considérés comme des hérétiques. Et ces hérétiques, ce sont des pestiférés de l'âme. Hein, ce sont des pestiférés. Et ils sont représentés aussi comme pestiférés. Dans les églises, vous avez des églises dans lesquelles vous avez remarqué, souvent obturées maintenant, mais il y a des trous sur le côté nord. Ou d'anciennes portes. C'était la porte par laquelle, ou des petits trous, par laquelle on donnait les hosties à travers le trou. Parce qu'ils étaient pestiférés en vrai, ou parce qu'ils étaient pestiférés de l'âme. Donc ça va être quelque chose, ça va être vraiment quelque chose d'extrêmement dur. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, quand on disait Borès, Borès, est-ce que c'est pas, quand on voit les Borès à la pointe du coteau, est-ce que c'est pas des maisons de reléguées, un peu isolées? Voilà. Alors ensuite, le concile de Tolède, conversion. Et puis, les carrés de se reconvertir au catholicisme parce que se pointent les Arabes. Les Arabes vont se pointer. Alors, on a des représentations, ça c'est à Tauriac hein, aussi. Ça c'est des représentations, vous voyez, de type de cajou. Alors, il pouvait avoir certaines fois des places dans l'église. Vous voyez, c'est. Vous voyez ces têtes un peu défigurées, ou les lépreux, c'est souvent. Alors, Cajo, ça veut dire Canis Go. Hein, okay, c'est pas plus difficile que là. Canis Go, chien de Go. Donc, la haine, on les appelait en bon français les chrétiens. Hein, c'est ça. Pour ça, j'ai pas fait de faute, c'est chrétiens. C'était les Go dans un certain respect, disons. Alors, les chrétiens devaient, les Cajo devaient avoir une pâte d'oie séchée peinte en rouge.
Donc les nazis n'ont rien à voir.
Non, je veux dire. Et vous voyez pourquoi aussi je l'amène petit à petit sur cette période, parce qu'elle est fondamentale. Vous vous rendez compte les haines que ça a occasionnées? Regardez les haines qu'on peut avoir par rapport aux nazis. Hein. C'est un peu de même nature. Hein. Dans certaines communes, vous avez un autre bénitier, un autre accès à l'église. Ou un côté qui est réservé. Devant la justice royale franque, un citoyen franc, citoyen catholique, vaut 7 témoignages de cajou. Il faut 7 cajou pour contrebalancer un témoignage. Cajou, je veux bien, comment vous voulez.
Je crois qu'ils avaient été assimilés aux crétins aussi.
Pardon ?
Je crois qu'ils ont été assimilés aux crétins, dans certaines œuvres littéraires.
Oui, aux crétins.
Les crétins,
oui. Oui, non, mais c'était des gens en dehors. Alors, évidemment, le témoignage, le mont Canigou, ça veut dire le mont des chiens de go. Voilà, c'était. On comprend. Alors, ceci fait place à nouvelles croyances petit à petit. Ah oui, je l'ai mis là. Excusez-moi, je ne croyais pas l'avoir mis. Ça, c'est. Collonges-la-Rouge. Si vous y allez, vous verrez. Donc, vous voyez, alors. On pousse un ours. Alors, le mystère de la foi et de la dignité, on l'a vu, l'intolérance face aux autres religions, les autres religions devront disparaître. C'est le glaive et le goupillon, le sabre et le goupillon, hein, ce qui commence. Le lion s'impose va mettre des lions à l'entrée des châteaux, à l'entrée de tout, qui s'impose comme symbole de la foi catholique, qui est sa force combattante. Voilà. Alors, le culte, ah oui, c'est le culte des anciens se transformerait, pour les saints locaux surtout, en culte des saints. Par les saints francs, par le risque, je veux dire, c'est qu'ils vont mater leur ours et ils deviennent saints. Voilà. Les chevaliers, et en plus, ils font des miracles. Donc, un petit peu comme les divinations qu'on pouvait avoir auparavant. Alors, les ours, les oiseaux sacrés deviennent des anges. Donc, on voit ça, c'est une église qui se trouve à Coscléan. Vous voyez, des oiseaux à figure humaine. Vous voyez, ces oiseaux seraient l'intermédiaire, se transformeraient au fil des siècles en saint. Un ange. Voilà. Alors là, c'est le buisson, Coscléron, et là-haut, c'est Collonges. Voilà. Là, comme il faut faire des églises très vite, et bien on va utiliser les temples païens existants. Alors ça, c'est, vous connaissez cette église, je suppose. Si, c'est juste à côté. Hein,
c'est
Aéroville.
Hein.
Non, c'est Saint-Michel-de-Bagnères. Vous passez derrière, vous allez voir, il y a... Alors, ce qui me fait dire Saint-Michel Barnière a des anciennetés de ce type, il y a le temple du Thor. De l'autre côté, il y a un porche avec un taureau, il y a ça. Ça fait déjà deux éléments. En tout cas, je vous invite à y aller parce qu'elle est magnifiquement restaurée. Ils ont fait vraiment un très beau travail à l'intérieur. Elle est vraiment très belle. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on retrouve, vous tenez, par-ci, à une ours. Vous voyez, il n'y a pas de queue, ça ne peut être qu'un ours. Les plantigrades, c'est qu'un ours. Ceci qui sort là-bas, il ressort des pierres comme ça, bizarres, qui sont les témoignages un petit peu cachés, je pense, de ces époques-là. C'est un peu la conclusion. Si on veut comprendre l'histoire de l'Occitanie, qui est bien réduite maintenant, puisqu'il n'y a pas l'Aquitaine, il n'y a pas, par rapport à ce que vous avez vu, on la définissait il y a quelques années à travers le patois comme une ère linguistique. Déjà le fait de dire qu'à Souillac on ne parle pas le même langage qu'à Martel, oui, et patois. Ça permet d'appuyer une langue commune qui est le français. Et c'est, si vous voulez, il y a quatre sonorités de langue occitane. Il y a la gascogne, il y a la limousine, il y a le provençal et le catalan, quoi. Bon, c'est les quatre bases, mais c'est toujours les mêmes racines. Et même avec l'espagnol, vous savez, quand vous êtes en Espagne, vous ne comprenez pas tout. Parce que les Espagnols, ils ont une couche de plus par-dessus. C'est la couche arabe. Hein, bon, c'est tout. Alors, le problème, c'est que on est formé. Cette histoire dont on ne parle pas, finalement, eh bien, elle est à la base de tous les conflits qui ont eu lieu depuis cette époque-là, 1500 ans, entre le sud et le nord, qui eux, sont à la fois des révoltes, mais aussi des conflits religieux. Les Huguenots, il n'y en a pas ici. Hein. Vous avez... Oui, mais on regarde de l'autre côté de la Dordogne, là-bas, il va y avoir des temples. Ici, il n'y en a pas. Hein. Et de l'autre côté de la Dordogne, il y en a plein. Mais ça, on n'en parle pas. Il y a des maisons qui sont des temples. Il y en a un temple, moi, je crois, c'est d'ailleurs... À côté de Grosjacques, entre la route de Grosjacques, il y a le temple, il y a l'église. Il y a toujours des temples. Les Huguenots, ils ne sont pas là-bas, au fond des Cévennes, ils sont ici, de l'autre côté de la Dordogne. Ici, on a été plus cathos que de l'autre côté. Mais c'est... Donc il y a eu les cathares, les croisades des Albigeois, on voit les pèlerinages de Compostelle. Ça, c'est quand même un sacré truc. Ça a permis de brasser les populations tout au long du Moyen-Âge. Pour aller sur Saint-Jacques, le matamor, celui qui tue les morts. C'est aussi un moyen de diffuser une culture dominante catholique, de diffuser un pouvoir politique aussi, des rois chrétiens sur ces hommes. Bon, ici, nous avons les Jacqueries, les Croquants, en Barat, en Bécède, il y a eu toujours des révoltes. Je vous invite à regarder les révoltes en Bécède. Il y a un ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais tout à fait remarquable. Alors j'ai mis le génocide de la jeunesse en 14 et au maquis de 1940. Les trucs, il va loin quand même. C'est quand même les paysans d'ici, les paysans du sud, ces populations de jeunes qui sont montées au front. Dans le but peut-être de créer une nation. Oui, on est une nation aujourd'hui. Mais ça a été dur, quoi. Ça n'a pas été évident. Je pourrais aller plus loin, mais bon, c'est un vieux monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps, avait 105 ans, m'avait dit que c'était pour tuer les jeunes. Les maquis, ça a été des hommes aussi, bon, de toute la région, du profond, où se sont réfugiés les jeunesses, et pas que des jeunesses catholiques, il y a eu tout le monde qui s'est face aux nazis. Ensuite, il y a des organisations politiques, syndicales, ça commence aux Girondins à la Révolution, et ça continue sur les syndicats, le socialisme, les révoltes du vin, là, des vignerons, dans partout. Ça a toujours été une terre où la distance est importante par rapport à la religion, où c'est d'autres religions, mais il y a un problème manifeste entre le Vatican et le Sud. Et on a vu dans notre lieu, pas très loin d'ici, des monastères qui ont disparu, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils n'étaient pas alliés ni ils étaient peu respectueux de la règle de Saint-Benoît, et ils étaient liés ni au prince, ni au roi, ni au Vatican. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ça. Alors, juste pour conclure, la bataille de Vouillé. Oui, la bataille de Vouillé, je l'ai dit, l'oligarchie ostrogothe est partie. Mais il est dit qu'Alaric II avait dit, avant de perdre cette bataille, avait dit à sa femme, tu prends tous les trésors et tu déménages tout ce qu'il y a au palais à Barcelone. Ça, c'est ce qu'on sait. Ça, on le sait. Par contre, on sait aussi que là-dessus, il y avait des grands mythes. L'arche d'alliance, le coffre au pouvoir de mort, etc. Tous ces mythes qu'on a pu voir dans des films d'aventure, etc. Eh bien, ce trésor, il serait toujours à soi-disant reine de château, hein, et puis le trésor d'Alaric, et c'est juste dehors, en plus vers le mont Canisgo. C'est toujours là-bas. On le cherche toujours. Si vous le trouvez, mais tant mieux pour vous. Merci, je vous remercie beaucoup et je vous salue bien avec mon ours de Borès. Bon, si il y a d'autres questions, volontiers.
Donc, si vous avez des questions à poser, c'est maintenant.
J'aurais une question à poser, moi.
Oui. Merci.
J'ai lu il n'y a pas longtemps sur un article que la langue go va être réintroduite. Les chercheurs palestiniens et jordaniens sont en train de retrouver la langue go.
C'est pas,
je ne savais pas. Moi non plus, je ne savais pas, il n'y a pas longtemps que je sais ça, deux ou trois mois, j'ai lu un article.
Vous entendez au fond.
De toute façon, c'est cette région. C'est
la région, mais oui. Oui.
La langue go. Ah. Alors moi, je vous invite à, quand vous voyez les modillons un peu particuliers, ça serait très intéressant. Oui, c'est dans le cas. Alors, il faut voir des ours aussi, il y en a eu après, mais c'est des ours, vous les repérerez, ils sont plutôt muselés, abattés.
Oui, moi je voulais vous remercier parce que je me demandais pourquoi cette marque était aussi forte, alors que finalement les Go en Quercy ne s'imposent vraiment qu'après la bataille de Déols en 469. Vous avez dit 469, 472, quoi, c'est dans ces eaux-là. Et ils sont chassés par Clovis à la bataille de Vouillé en 507. Ça fait même pas 40 ans. Et vous nous avez donné l'élément de réponse, et ça c'est très important, seule l'aristocratie est partie. Mais les petits chefs, Rex, et les Goths moins riches sont restés sur place. Donc l'empreinte a pu se faire.
Nous sommes descendants des Goths, voilà. Peut-être.
Mais moi, je me demandais comment on pouvait avoir une empreinte aussi forte, mais là, j'ai compris. Grâce à vous, merci beaucoup.
Non. Alors, bah, si personne n'a de questions à poser maintenant, vous pouvez d'abord, alors je vais vous avertir, la seconde conférence a lieu le 11 mars. Elle s'intitule Les origines urbaines de Martel et, les représentations du sceau consulaire avec Madame Marguerite Guély et Monsieur Pierre Flandin-Bletti, ici. Ensuite, au mois d'avril, on aura une conférence sur la représentation de la femme au temps de la préhistoire. Ensuite, au mois de juin, donc l'association est en train de travailler sur l'exposition du Pseudonym. Elle essaye de, elle présente les fouilles de Jean-Pierre Giraud et elle essaye de rendre tout ce qui s'est passé au moment de la bataille accessible au public. Donc cette exposition sera visible à partir du 3 juin et durera tout l'été jusqu'au mois d'octobre vraisemblablement ou novembre. Et à partir de là, elle pourra itinérer pour les communes qui la demandent. Il y aura une conférence importante qui se tiendra justement le 3 juin sur, j'ai plus le titre en tête, mais elle est sur les programmes, sur les archers romains et gaulois, avec Guillaume Renoux, qui est un universitaire et qui parlera de ces archers. Voilà. Donc maintenant, je vous invite, alors vous pouvez prendre ceux qui n'en ont pas un programme. Je vous invite à venir vous restaurer un petit peu au bout de la salle.